SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.
Voilà, alors bonjour, on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie Sterpanich. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler avec toi de sommeil, des ados, des écrans et du numérique en général, du sommeil des ados, de nos ados, en lien aussi avec l'école. Peut-être avant de commencer de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, donc je suis chercheuse en neurosciences à l'Université de Genève, au département de la faculté de médecine, au département neurosciences. Et ben voilà, ça fait de nombreuses années que je m'intéresse au sommeil, le fonctionnement du sommeil, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on dort. Et puis récemment, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse maintenant au sommeil des ados. On essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils dorment bien ou pas bien.
Dans une de ces recherches, justement, tu t'es intéressée, comme tu dis, au sommeil des ados, notamment à la régulation des émotions, à la consolidation de la mémoire émotionnelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, parce que je pense qu'on va y venir, le concept d'homéostasie affective jour-nuit que tu as exploré dans tes travaux et en quoi est-ce que c'est pertinent par rapport aux adolescents? Alors, c'est peut-être déjà un terme très technique pour commencer.
Mais oui, alors on commence de manière très spécifique, mais ce n'est pas grave, c'est très bien, c'est très intéressant. Le principe, c'est qu'en fait, quand on dort, ça sert à réguler nos émotions. Donc, la journée, on a toute une série d'émotions. On a, par exemple, pour les jeunes, ils ont des examens, par exemple, puis ils doivent se préparer pour les examens. Et bien, pendant le sommeil, ils vont, par exemple, rêver de leur session d'examen. Ils vont rêver que peut-être qu'ils vont rater, ils vont rêver qu'ils n'ont pas assez étudié. Et du coup, ils vont imaginer toute une série de solutions, de situations, et ça va les aider le lendemain à mieux gérer leurs émotions. Donc, plus on va rêver d'émotions, en fait, mieux on va les gérer le lendemain. Donc, si on a rêvé qu'on n'avait pas assez étudié pour notre examen, ça va nous motiver le lendemain pour étudier un petit peu plus à l'examen. Donc, en fait, le fait d'avoir des émotions en sommeil, ça va nous aider à mieux les gérer le lendemain.
Donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, c'est ça ou
La mémoire émotionnelle, c'est le fait exactement de se souvenir ce qui est émotionnellement important. Si je vous demande ce que vous avez fait, ce que vous avez mangé il y a une semaine, si c'est un mardi quelconque, vous n'allez pas vous en souvenir. Par contre, si je vous demande ce que vous avez mangé à votre anniversaire qui était il y a 6 mois, vous vous souvenez que c'était une bonne fondue et qu'il y avait plein de gens autour de vous, vous allez vous rappeler exactement le nombre de fromages que vous avez mangé, etc. Parce que c'était émotionnellement important. Donc on s'en souvient mieux que si c'était, alors que c'était beaucoup plus récent, ce qu'on a mangé il y a quelques jours, par exemple. Donc on se souvient mieux de ce qui est important, ce qui est émotionnellement fort, que ce qui est neutre.
Et donc là, le lien avec tes études et l'importance du sommeil, on va y revenir dans quelques minutes, mais l'idée, c'est de dire que quand tu ne dors pas assez, ou c'est peut-être en raccourci, quand tu ne dors pas assez, ou quand tu as une qualité de sommeil qui n'est pas suffisante, tu n'as pas suffisamment de moments pendant la nuit pour gérer ce temps de mémoire émotionnelle, c'est ça ?
Il n'y a pas que la mémoire émotionnelle, les émotions en général. C'est-à-dire, on le sait tous, quand on a mal dormi, le lendemain, on est de mauvaise humeur. On est stressé. Tous les parents qui ont des ados à la maison, ils savent bien que si, ou un enfant, on sait que si un enfant, il a mal dormi, enfant fatigué, enfant fatigant. c'est en lien à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant le sommeil, on gère nos émotions. Et puis, du coup, si on est en privation de sommeil, on va avoir des déficits, des problèmes pour gérer nos émotions. Alors, si c'est une seule nuit, c'est pas très grave. Si on a mal dormi une nuit, on sera de mauvaise humeur le lendemain, c'est pas très grave. Par contre, ça peut avoir des conséquences, on peut y revenir plus tard, mais sur les maladies, les troubles mentaux, les maladies mentales, il y a des forts liens entre les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur.
Très bien. Et puis, je saute sur différents points, et puis on va revenir le lien dans tout ça. Tu es aussi une figure clé, si ce n'est peut-être la figure clé du programme Classe Sommeil de l'UniJE, qui met en œuvre des interventions en milieu scolaire pour améliorer le sommeil des jeunes. On l'a peut-être, en tout cas, moi, je l'ai vu passer dans mon école. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de la jeunesse de ce projet? Quels sont les résultats les plus marquants à ce jour-là? Si tu as déjà des résultats que tu peux partager, notamment concernant l'amélioration de l'efficacité du sommeil, la réduction de l'anxiété, enfin voilà, où est-ce que vous en êtes, d'où ça vient et qu'est-ce que...
Alors, ça vient d'il y a... Maintenant, c'était en 2014, on a commencé à s'intéresser au sommeil des jeunes dans les classes il y a très longtemps. C'était une médecin scolaire qui était venue vers nous et qui avait dit les jeunes dorment mal, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc on a commencé à faire des interventions dans les classes où on a réduit les écrans, on leur a demandé de réduire les écrans. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, pour améliorer le sommeil, il faut essayer de mettre en place quelque chose de plus global. Et on s'est appuyé sur une thérapie, ce qu'on appelle la thérapie cognitive-comportementale. Donc c'est-à-dire, c'est une thérapie de groupe. groupes où on parle, on donne des conseils pour améliorer son sommeil, donc des conseils d'hygiène de sommeil. Pareil, on peut revenir après voir quels sont ces conseils, mais en gros, on donne des conseils d'hygiène de sommeil. Les adolescents apprennent ce que c'est le sommeil, la pression de sommeil, les rythmes, etc. Et aussi, ils observent leur sommeil et reçoivent des conseils précis pour améliorer leur sommeil. Et puis, l'avantage de ces ateliers, c'est qu'on va directement dans les classes. Donc, on va sur le temps de midi rencontrer les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes, ils souffrent d'un mauvais sommeil, mais ils estiment que c'est normal. Il y en a très peu qui vont consulter leur médecin en disant « je dors mal, aidez-moi ». Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut aller à la rencontre des jeunes, leur proposer des solutions. Et donc, on a fait environ 120 adolescents pour le moment. Et on fait ces ateliers de groupe. Il y a 4 ateliers de groupe et on fait des tests avant et après. On mesure la mémoire, on mesure la vigilance, on mesure l'anxiété, la dépression, la régulation du stress. Et on voit, nos résultats sont très prometteurs puisqu'on voit qu'il y a une diminution forte de la... Il y a une amélioration de la qualité de sommeil, il y a une amélioration de la durée de sommeil, donc ça c'est ce qui était attendu, mais on a des conséquences positives qui accompagnent ces modifications de sommeil, c'est-à-dire qu'ils sont moins anxieux, ils sont moins stressés, ils ont une meilleure vigilance et une meilleure mémoire. Donc voilà, le fait d'aider les jeunes à mieux dormir, ça, ils dorment mieux, mais ça a des conséquences aussi positives sur des choses qui sont importantes pour la vie des jeunes à l'école, c'est-à-dire être vigilant en classe, pouvoir écouter ce que le prof raconte et rester attentif, réguler ses émotions, gérer le stress, si on a un examen, arriver à mieux gérer son stress. Mais tout ça, ça passe aussi, ça passe par la relaxation, toute une série de choses, mais aussi par une amélioration du sommeil.
Et quand tu dis, je réagis, quand tu dis qu'ils souffrent de mauvais sommeil, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire pas assez d'heures de sommeil consécutives? Ça veut dire problème d'endormissement, de réveil nocturne? Ça veut dire quoi exactement?
Alors, c'est un peu tout. On sait que 70% des jeunes disent qu'ils dorment pas bien. Donc, c'est énorme. Donc, alors, il y en a qui dorment pas bien, mais c'est peu. Il y en a qui dorment pas bien, et puis il y a des grosses plaintes. En fait, les plaintes sont multiples. C'est-à-dire, souvent, c'est des problèmes d'endormissement. C'est en partie lié avec les écrans. C'est notamment le lien de la discussion aujourd'hui. On peut en discuter aussi plus en détail après. Ils ont du mal à s'endormir. Ils se réveillent souvent. Les jeunes aussi, ils ont tendance à se décaler et à des couches tard, lève tard. C'est quelque chose de physiologique. Quand on est vers la vingtaine, progressivement, c'est dû aux modifications hormonales. Ils ne sentent pas la fatigue le soir. Ils ont tendance à aller se coucher plus tard. Du coup, le problème, c'est que si on va se coucher plus tard, l'école, elle commence quand même toujours tôt. Alors, ils accumulent une dette de sommeil. Donc, c'est un mélange. Il y a différents patterns. Il y a soit des patterns plutôt d'insomnie, problème d'endormissement, réveil au milieu de la nuit, réveil trop tôt le matin, soit plutôt des patterns de décalage de phase, c'est-à-dire qu'on va... on va avoir tendance à se coucher trop tard et du coup se lever trop tard.
Et justement, ça touche quelle tranche d'âge? Donc tu passes, c'est quoi? Tu passes dans le secondaire 1, dans le secondaire 2? C'est environ, vous avez un public cible pour ces...
Alors dans la première étude, on avait fait du 12-19 ans, il y a 10 ans. On remarquait qu'entre vers les 12, 13, 14 ans, les parents sont encore présents. Donc, c'est encore les parents qui peuvent arriver à dire « il est temps d'aller se coucher », etc. Et on a remarqué, parce que dans cette étude-là, on avait mesuré pendant 2 semaines le sommeil normal, et puis pendant 2 semaines, on leur avait demandé d'arrêter les écrans le soir, à 21h. Et on a remarqué que chez les jeunes, ça marchait, mais ça marchait moyennement. Tandis qu'à partir de 15 ans, on avait fait 19 ans, là, ça marche vraiment bien. Le fait d'arrêter les écrans, d'avoir un impact sur le sommeil, le fait d'arrêter les écrans modifie le sommeil. Et dans nos ateliers, on a augmenté un petit peu plus la tranche d'âge qu'on appelle ado. Cette fois-ci, c'est du 15-25. En fait, on s'est basé sur l'hôpital psychiatrique, la pédopsychiatrie, qui, elle, pour elle, considère les adolescents entre 15 et 25 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette tranche d'âge-là.
Et quand tu dis on mesure le sommeil, c'est quoi? C'est de l'auto-déclaratif? C'est les élèves qui déclarent eux-mêmes combien d'heures ils dorment? Ou est-ce que vous avez des outils de mesure?
Alors, on a des outils qui sont subjectifs et objectifs. Donc, la première chose, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est remplir un agenda de sommeil. C'est très simple. Donc, c'est une grille, c'est une feuille. Avec une grille, chaque jour, on a une ligne et on a toutes les heures, on colorie si on dort ou si on est éveillé. On met une petite flèche vers le bas quand on essaie de s'endormir. On colorie là où on est éveillé et puis on met une flèche vers le haut quand on se réveille. Ça paraît très simple, mais ça marche très, très bien. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est mesurer le sommeil de manière objective. Donc, on leur demande de porter un actimètre. C'est une petite montre qu'on met au poignet, un peu comme les smartwatches. Maintenant, on en voit souvent. Et ça va mesurer la quantité de mouvement. Et donc, on va pouvoir voir les cycles de sommeil des adolescents. Donc, on compare les données objectives et subjectives. Ce qui est intéressant, parce que parfois, un des principes de l'insomnie, c'est qu'on mesure mal son sommeil. « Oh, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi 3 heures. » Et puis, en fait, quand on regarde, ben non, en fait, tu as dormi plus. Donc ça, c'est déjà une première aide pour rassurer les jeunes du fait que parfois, ils ont l'impression de mal dormir alors qu'ils dorment bien.
Et vous avez, à ce jour, dans ce programme, vous avez pu faire l'étude, a pu porter sur beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup de classes ou
Alors, on va faire sur 150 élèves, parce que ça reste pour le moment dans le cadre d'un projet de recherche. Et l'objectif, ce serait justement de transformer ces ateliers qui sont faits par des experts sommeil dans nos équipes de recherche. On aimerait transférer ces ateliers pour qu'ils soient pris en main par les profs de bio, les profs, peu importe les matières, ou les infirmiers scolaires. Et l'idée, c'est que la bonne parole du bon sommeil puisse être divulguée au maximum de jeunes et qu'un infirmier scolaire ou une infirmière scolaire puisse aider, faire des petits groupes de jeunes qui ne dorment pas bien et proposer ça chaque année, de temps en temps, et que ce soit plus ouvert, quoi. Et l'objectif, alors là, c'est de pouvoir le proposer à un beaucoup plus grand nombre de jeunes que juste notre projet de recherche.
Dans vos interventions, est-ce que vous arrivez à voir ce qui marche? Je ne sais pas les mêmes choses qui marchent pour chaque jeune, mais est-ce que c'est simplement le fait d'en parler? Je sais qu'il y a des effets un peu psychosomatiques. Parfois, on a l'impression, justement, vous disiez, de ne pas avoir bien dormi, puis du coup, on se sent irritable toute la journée, alors que peut-être qu'on a bien dormi. Donc, est-ce qu'il suffit d'en parler? Du coup, bah, effectivement, les enseignants, il n'y aura pas trop de formation à donner? Ou est-ce qu'il y a quand même des interventions spécifiques qui demandent une grande expertise?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est... En fait, on sait que juste donner des conseils d'hygiène de sommeil, ça suffit pas. Si on va juste dans les classes et qu'on dit il faut dormir régulièrement, il faut éviter le café le soir, il faut faire du sport, etc., ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mesurer en plus le sommeil. C'est-à-dire remplir, ce qui est pas compliqué, hein, c'est remplir cet agenda de sommeil, noter tous les jours à quelle heure je m'endors, à quelle heure je me réveille. Et donc, c'est la combinaison de conseils. Alors d'abord, apprendre ce que c'est le sommeil, pourquoi c'est important de dormir, qu'est-ce que c'est la pression de sommeil, etc. C'est donner des conseils et puis les observer soi-même. Donc c'est l'ensemble. Donc effectivement, il faut avoir un minimum de compétences, mais nous, on a l'impression, et c'est ce qu'on aimerait, c'est pouvoir transférer ces compétences, en tout cas le minimum nécessaire, aux profs qui sont désireux de le faire. C'est sûr que ce ne sera pas un cours de bio. On sait que si on donne pendant un cours de bio quelques conseils sur le sommeil, alors c'est mieux que rien, c'est super, mais si on veut vraiment aider ceux qui ont des problèmes, il faut aller un petit peu plus loin et les revoir au moins 2-3 fois.
Et justement, je profite de faire le saut vers la question des écrans. Tu t'y es intéressé notamment dans une de tes études, je crois, qui a été publiée en 2019, qui portait sur la réduction de l'utilisation des écrans en soirée chez les adolescents. Tu peux nous expliquer un petit peu sur exactement les détails de cette étude, un peu les résultats que vous avez pu observer. Il y avait notamment la limitation des usages des écrans après 21h, c'est exact?
Voilà, donc on a commencé en 2014-2015, où on a fait une première étude, on a vu 500 adolescents dans le canton de Genève, on allait dans les classes, là on intervenait pendant le cours de bio justement, et on a demandé aux jeunes d'arrêter les écrans à 21h. Donc pendant 2 semaines, on mesurait avec un agenda et un actimètre les rythmes normaux, puis on allait dans les classes, on essayait de les convaincre que c'était bien d'arrêter les écrans, que ça permettait de mieux dormir. Alors tout le monde n'était pas d'accord évidemment, hein, on a essayé de jouer sur l'effet de groupe, et on a quand même réussi à motiver 180 ados. Et on a remarqué que ceux qui arrêtaient les écrans, en général, ils ont arrêté les écrans une heure, ils ont fait une heure en moins le soir, et ils ont gagné en moyenne 20 minutes de sommeil. Alors 20 minutes, c'est beaucoup, ça fait en moyenne par nuit, à la fin d'une semaine, on gagne déjà 2-3 heures de sommeil, donc c'est vraiment beaucoup. Et on a remarqué qu'ils étaient plus vigilants aussi. Ensuite, on est retourné dans les classes après le Covid, et là, on leur a demandé, mais quelles sont les règles parentales qui sont liées aux écrans, qui affectent le sommeil? Parce qu'on se dit, c'est très bien arrêter les écrans, mais finalement, est-ce que mettre en mode avion, ça suffit? Du coup, on a fait passer des questionnaires, et on a demandé aux jeunes, est-ce que vous avez des règles parentales sur les écrans le soir? Et si oui, lesquelles? Alors, on a remarqué que le fait d'avoir une règle le soir, les parents indiquent qu'on doit arrêter les écrans à un certain moment donné, eh bien, ces jeunes-là dorment 40 minutes de plus que les autres. Donc, ce qui est quand même vraiment énorme.
Quelle que soit la règle.
Quelle que soit la règle. Donc, ça encourage les parents, et même les profs aussi, à mettre une règle, en tout cas en parler avec leurs jeunes. S'ils en parlent, les jeunes vont mieux dormir, et du coup, ils vont gagner sur la cognition à l'éveil, sur la mémoire, la vigilance, etc. Alors ensuite, on a regardé quelles règles étaient utiles. Et là, on a remarqué que mettre une durée précise, bon, tu as 2 heures par jour, bon, bah, ça, ça ne suffit pas. Ou mettre un timing, bon, tu arrêtes à 21h, 21h, bon, en général, ça ne suffit pas. Mettre en mode avion non plus. Si l'ado disait, bon, je mets en mode avion, bah, en fait, il suffit de sortir du mode avion et puis arrêter. On a vu que la règle qui fonctionnait, qui était significativement, qui améliorait significativement la durée de sommeil, c'était sortir le téléphone de la chambre. Donc, à ne pas avoir du tout de téléphone de la chambre. Et alors, la règle qui marche le mieux, c'est de ne pas avoir du tout de téléphone le soir. Alors ça, bon, il n'y a que 6% des jeunes qui ont cette règle-là. Donc, ça, ça marche peut-être. Ceux-là, ils gagnent 1 heure de sommeil par nuit.
Et le soir, on dit, le soir, c'est quoi? C'est à partir de 19h
Oui, c'est le soir. On fait un peu après l'école. Et puis après, pas de téléphone. Donc ça, je pense, c'est très bien, mais ce n'est pas très réaliste. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de proposer aux jeunes de ne pas laisser le téléphone dans la chambre quand ils dorment. Alors, ils disent, oui, mais j'en ai besoin pour mon réveil. Ben, on achète un réveil. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est pas très cher, un réveil. L'idée, c'est de déconnecter. De toute manière, quand on dort, on n'a pas besoin de son téléphone, puisque, a priori, on dort. Il y a des chiffres qui ont été mesurés en France sur la population globale d'adolescents, et les chiffres sont effarants. Il y a 50% des jeunes qui ont leur téléphone dans leur chambre, et bon, ces chiffres, ils datent d'il y a déjà 4-5 ans, je pense que ça a vachement augmenté depuis. Et par exemple, 26% des jeunes planifient une alarme la nuit pour regarder leurs notifications. Donc le fait d'avoir le téléphone à côté de soi, ça fait qu'on est hyper vigilant, et puis ça empêche de bien dormir.
Je me demandais s'il peut y avoir des causalités cachées avec le niveau social, où on pourrait imaginer que ce sont les mêmes enfants qui vont respecter les règles qu'on leur donne et que ce sont aussi ceux qui ont appris à bien dormir parce que les parents sont intéressés au sommeil depuis qu'ils sont bébés. Et comment vous avez contrôlé ces variables ?
Probablement. Alors, dans notre étude, nous, on n'a pas pu contrôler toutes ces variables-là, mais c'est tout à fait juste. Probablement que ceux qui ont des règles pour les écrans auront des règles pour le sommeil, auront des règles plus générales d'organisation de vie, bien sûr. Bien sûr, tous ces paramètres sont affectent probablement les résultats, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que c'est quand même toujours intéressant de se dire quand même, on peut, en tout cas ce genre de règle-là n'est pas très compliqué, donc on peut enfoncer le clou.
Oui, j'ai déjà tombé sur ces, notamment dans l'étude enfants écran, la recherche temps perdu sur l'histoire des 26% qui se réveillent la nuit ou qui restent réveillés la nuit, notamment pour voir des notifications. On a aussi des cas d'élèves dans les écoles qui nous étaient remontés, notamment des infirmières, justement de cas d'élèves qui donnaient une priorité au temps d'écran la nuit sur le temps de journée sous prétexte que la vie en ligne était devenue plus importante pour ces personnes que la vie en journée. Donc, on a eu des cas d'élèves qui ne dormaient quasiment pas depuis le début de l'année, en tout cas pas pendant la nuit.
Oui, c'est ça. On a de tout. Hein. Il y a vraiment tous les profils, mais c'est vrai que... En fait, le problème des... il y a plusieurs choses sur le problème des écrans. Il y a d'abord la lumière. Là, on le sait que la lumière... Donc, quand on va dormir, il y a notre horloge biologique qui nous indique qu'il est temps d'aller dormir. Et cette horloge, elle se cale sur la lumière du jour, et la lumière en général. Et c'est notamment la lumière bleue. Puis, quand on met un écran qui est tout proche des yeux, eh bien, on a une émission de cette lumière bleue, et donc qui va tromper notre cerveau. Au lieu de se dire, d'être dans la pénombre, et de se dire, bah, tiens, c'est le soir... Non, il est temps de s'endormir, on va sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ben, cette lumière bleue qui est proche, eh bien, elle va faire en sorte qu'on ne sécrète pas la mélatonine et qu'on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'il y a de l'adrénaline. Donc quand on regarde un film ou une série, il y a de l'adrénaline. Ou quand on regarde une photo qu'on a publiée sur Instagram, est-ce que je vais avoir des likes et tout ça? Bon, ça, c'est de l'adrénaline. Et puis, il y a le temps qui passe. Le temps qui passe, les jeunes, ils ne voient pas le temps passer sur les écrans. Et alors, le temps empiète complètement sur l'heure de sommeil, pas parce qu'ils ne sentent pas la fatigue, simplement, ils ne voient pas le temps passer. Et puis, ils peuvent passer des temps infinis dessus. Alors déjà, en journée, faire une mono-activité, c'est déjà pas génial. Mais en plus, pendant la nuit, si ça remplace des heures de sommeil, alors ça peut avoir des conséquences, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les émotions, la vigilance, etc.
J'ai une question qui est peut-être un peu naïve à ce point-là. Moi, j'entends en effet déjà, on va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais les effets assez problématiques de l'absence de sommeil dans le quotidien de nos jeunes. De l'autre côté, il y a cette idée que la solution, en tout cas, en théorie, paraît assez simple. En tout cas, tu le disais, il suffit entre guillemets de mettre des règles. Après, on pourra revenir sur l'effet de ces différentes règles, mais déjà certaines règles mises en place, même des toutes simples, eh ben, ça améliore les choses. Comment alors expliquer que finalement, on a un problème qui est aussi vaste, aussi large, alors que la solution ne semble pas, entre guillemets, si compliquée que ça?
Le problème, c'est qu'on rentre dans l'intimité des familles. Le sommeil, c'est quelque chose, on est tout seul, on a de compte à rendre à personne. Si c'est manger, à la limite, même manger un repas, on mange en face des autres. Si c'est avoir une bonne hygiène, enfin travailler, on peut, je sais pas. La plupart de nos comportements, ils se font de manière quand même sociale, on est entouré. Le sommeil, on est vraiment tout seul et c'est le seul moment où on n'a plus de compte à rendre à personne. On est tout seul dans son lit et puis on peut envoyer balader les parents, les profs, etc. Et donc, c'est là que les jeunes et même les adultes ont envie d'être tranquilles. Donc, c'est difficile de rentrer dans la sphère vraiment privée et si on ne le fait pas, ça ne se voit pas en tout cas. Et puis le problème aussi avec le sommeil, c'est que, par exemple pour la nourriture, on peut dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Bon, ça marche pour tout le monde. Le problème du sommeil, c'est que il y en a qui ont une mauvaise hygiène de sommeil, on peut leur expliquer qu'il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Et donc on peut faire des campagnes en disant le sommeil c'est important, il faut bien dormir. Le problème, c'est qu'il y a tous les patients insomniaques. Ces patients insomniaques, enfin, ou les patients, ou les ados, ou les adultes, en fait, eux, ils savent que le sommeil, c'est très important, et ils ne dorment pas bien parce qu'ils mettent trop d'importance sur le sommeil. Ils vont au lit trop tôt, ils se disent « je dois bien dormir, c'est hyper important ». Et alors, en fait, si on en parle trop à des personnes, si on donne un message qui est mal adapté, ça va empirer leur sommeil. Donc c'est pour ça que le message sur le sommeil, il n'est pas toujours simple. C'est dire qu'il faut une bonne hygiène de sommeil, il faut avoir des rythmes réguliers, pas trop d'écran le soir. Et en même temps, si on dit ça à des gens insomniaques, ils vont encore plus être insomniaques, ils vont aller dormir encore plus tôt, ce qui va renforcer encore un mauvais sommeil. Donc voilà, en général, le message n'est pas si blanc ou noir et nécessite un minimum d'informations.
Il y a ce côté un peu culpabilisant, dire mais relaxe-toi, et c'est plus ça. On y pense, en effet, moins on est relaxé.
Exactement, c'est exactement ça.
Dans les conséquences, tu t'es aussi intéressé, je crois, aux conséquences que ça peut avoir. On a commencé à en parler. Tu as mentionné notamment les questions en troubles mentaux. On va y revenir dans une minute. En termes de, est-ce qu'on a pu chiffrer dans une certaine mesure, alors c'est de manière scolaire, est-ce que, au niveau scolaire, ce que ça a comme impact? Alors, peut-être de manière très terre à terre, performance scolaire ou absentéisme ou.
Alors nous, donc dans nos études précédentes, on a fait des corrélations. On voit que la durée de sommeil est corrélée aux performances scolaires. Donc ceux qui dorment plus ont des meilleures performances scolaires. De nouveau, je crois qu'il y a plein de facteurs confondants. Hein. Peut-être ceux qui dorment plus et les parents qui sont plus présents, sont plus là pour faire les devoirs, etc. Mais il n'empêche, la corrélation existe. Donc là, il y a une corrélation entre la durée de sommeil, les performances scolaires, avec la vigilance, avec les questionnaires de stress et d'anxiété. Donc on n'a pas des seuils précis, mais on a des corrélations très nettes et très significatives qui font que ceux qui dorment bien, eh bien, ils vont avoir des bons points, ils vont être vigilants et ils vont avoir un niveau de stress plus faibles, et ceux qui dorment peu, eh bien, ça va avoir des conséquences très claires, puisqu'ils vont avoir des moins bons résultats scolaires. On avait simplement demandé les notes, hein, sur 6, on a fait une corrélation durée de sommeil et même qualité de sommeil. Eh bien, ceux qui dorment peu ont des moins bons résultats scolaires, et surtout, ce qui est assez embêtant, ont des scores sur les questionnaires de dépression et d'anxiété qui sont plus élevés.
Et donc ça, le lien avec les... On profite de faire le lien maintenant. Le lien avec les troubles mentaux, anxiété, il s'explique à la fois par rapport à la gestion des émotions qui est absente par cette absence de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui l'expliquent?
Alors, donc, en clinique, vous pouvez demander à tous les psychiatres ou les psychologues. La plupart, une des portes d'entrée vers les troubles de la maladie mentale, c'est souvent des plaintes de sommeil. C'est une des premières plaintes. J'arrive pas à dormir, je suis anxieux. Les plaintes de sommeil sont très fréquentes, qu'il y ait trop peu de sommeil ou trop de sommeil. Donc, oui, il y a des liens très forts entre problèmes de sommeil et troubles de l'humeur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pendant le sommeil, donc, on apprend à gérer nos émotions. Et du coup, si on manque de sommeil, on n'arrive pas à gérer. Donc, en fait, en sommeil, il y a la région des émotions qui s'appelle l'amygdale. C'est une petite région au centre du cerveau. Et elle est contrôlée par la partie avant de notre cerveau, qui est la partie de la raison. Et pendant le sommeil, la partie de la raison arrive à contrôler les émotions. Et donc, on s'entraîne à ça. Et puis, si on ne dort pas assez, eh bien, on a ce contrôle des émotions qui ne se fait pas bien. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire que si on a trop d'émotions le soir, ça, c'est typiquement le cas des ruminations chez les anxieux. Donc on a différents patterns. On a soit des ruminations et donc qui vont induire on est anxieux, je vais rater mon examen, ou je me suis fâchée avec tel copain, etc. Donc on va avoir des ruminations, du coup on va décaler l'heure de coucher, et puis comme on ne va pas bien dormir, ça va renforcer les ruminations et une mauvaise gestion du stress le lendemain, donc ça va faire un cercle vicieux. Et à côté de ça, dans la dépression, on peut aussi avoir des insomnies, mais on peut également avoir plus de sommeil parce qu'on a un état plus apathique. Et alors là, on va avoir des durées de sommeil beaucoup plus longues. Les jeunes vont, ou même les adultes vont rester trop longtemps dans leur lit et ce n'est pas idéal non plus.
Mais ce que j'entends, en tout cas dans ton exemple, c'est qu'il y a déjà, à la base de certains de ces cas, en tout cas, il y a déjà un terrain favorable, un terrain anxieux qui lui-même génère une difficulté d'endormissement et donc de raccourcissement du sommeil, qui lui-même va générer l'augmentation de l'anxiété. Est-ce que, je ne sais pas, si dans un terrain pas forcément ou peu anxieux, est-ce qu'on pourrait avoir le même genre d'augmentation des cas de troubles mentaux, par exemple, ou est-ce qu'il faut déjà qu'il y ait une espèce de...
Alors ça, l'apparition des troubles mentaux, elle est complexe. On ne pourrait pas résumer l'apparition des troubles mentaux à des problèmes de sommeil, bien sûr. En gros, le sommeil, c'est une partie du puzzle dans le trouble mental. Donc nous, ce qu'on dit souvent, c'est que si on prend des médicaments, des anxiolytiques, et qu'on fait toute une thérapie, et qu'à côté de ça, on dort 3 heures par nuit, bah, tout ce qu'on va apporter pour essayer de résoudre le trouble mental marchera moins bien si on ne traite pas en plus les problèmes de sommeil. Donc, traiter les problèmes de sommeil ne vont pas suffire à traiter une anxiété ou une dépression. Par contre, ça fait partie du package, de l'ensemble. On a intérêt à essayer de... Si on est anxieux, si on est dépressif, on doit, parmi toutes les autres choses, apprendre à se relaxer, d'où vient le problème, des choses comme ça. Essayer d'avoir une bonne hygiène de sommeil aidera à se sentir mieux, quoi.
Je viens avec une question toute bête, mais je crois que vous n'avez pas dit il y a une durée idéale de sommeil, parce que vous n'avez pas des gens qui dorment trop, des gens qui ne dorment pas assez.
Alors, ce n'est pas du tout une question toute bête. C'est très compliqué, en fait, de répondre à cette question, parce qu'en fait, il n'y a pas de durée de sommeil idéale. Il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. C'est programmé génétiquement. Donc, il y en a qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Et puis, c'est comme ça. Ce n'est pas de chance pour ceux qui ont besoin de plus de sommeil. Ils ont moins de temps libre dans la journée. Mais on ne peut pas se battre contre sa propre nature. C'est ça qu'on a envie de dire. La meilleure manière de savoir si on a suffisamment dormi, c'est quand on est en vacances, savoir combien de temps est-ce qu'on dort pour être en forme. Par exemple, typiquement, les insomniaques, souvent, ils disent oh, « c'est une catastrophe, j'ai dormi 7 heures et je ne vais pas être en forme ». Mais en fait, si, ça peut très bien fonctionner, 7 heures. Il y a quand même des normes, d'accord ? On dit que les adultes, ils ont besoin d'en moyenne 8 heures de sommeil, et les ados, on dit qu'ils ont en moyenne besoin de 9 heures de sommeil. Donc, les ados ont besoin de plus d'heures de sommeil que les adultes.
Est-ce qu'en hiver ou en été, il y a un changement ?
Alors oui, c'est une bonne question aussi. Oui, en général, on fait un peu comme les animaux, on dort un petit peu plus en hiver, mais la différence n'est pas énorme. Avec nos sociétés où il y a plein de lumière, avec l'électricité, on ressent plus tellement cette différence. On la ressent un peu, mais il y a des différences. Mais donc oui, donc on dit que pour les ados, c'est environ 9 heures, plus ou moins 1 heure, donc entre 8 et 10 heures, et pour les adultes, c'est environ 8 heures, et plus ou moins 1 heure, entre 7 et 9 heures.
Et pour les enfants, tu as aussi des données, il y a des variations. Après, je pense aux enfants, on veut parler d'enfants très jeunes, enfants quasiment adolescents, il y a des grandes variations de l'un à l'autre. Mais...
Alors, donc il y a des recommandations de la société, c'est la Société américaine de sommeil qui fait des recommandations, et la durée de sommeil et les besoins diminuent avec l'âge. Donc un bébé va dormir environ 14 heures, et alors plus on avance en âge, moins on a besoin de sommeil. Donc ça dépend, j'ai plus exactement les âges en tête, mais... c'est quoi? C'est 10 heures un enfant de 10 ans, et puis ça doit être 12 heures un enfant de 8 ans. Et puis voilà, plus on est jeune, on commence entre 14 et 17 heures, je crois, un bébé. Et puis on diminue, le besoin de sommeil diminue avec l'âge.
Donc 9 heures de moyenne, en tout cas pour nos ados. Et puis les temps de sommeil que tu as pu observer chez nos jeunes
Alors malheureusement, on en est loin, évidemment. On en est loin, on est vers 8h, 8h30 pour les 12 ans et plutôt 7h30 pour les 18-19 ans.
Ce qui me semble encore pas mal, entre guillemets, même si on est...
Ce qui n'est pas si mal.
On est loin, parce que je sais qu'il y a une étude notamment qui a été faite à André Chavannes qui s'est intéressée à au temps de sommeil chez les jeunes. Et puis, j'ai les chiffres ici, je crois que le temps de sommeil moyen, c'était de 7h03, alors c'était de l'auto-déclaratif. Hein. Et puis, il y avait certains adolescents, je crois, il y avait un tiers qui dormait moins de 6 heures par nuit.
Oui, c'est tout à fait possible. Oui, ça...
En tout cas, qui disaient dormir moins de 6 heures par nuit.
Alors, il y a des études qui ont montré que... Alors, elle date d'il y a 3 ans, mais on a perdu 40 minutes de sommeil en 7 ans, par exemple, avec l'arrivée des écrans. Donc, oui, les jeunes dorment de moins en moins. C'est un vrai problème actuel.
Tu dis les jeunes, mais en fait, c'est nous tous.
Alors, on est dans un cadre ici où on parle des jeunes et des ados, mais tout le monde, bien sûr. Ouais. Non, et c'est vraiment l'arrivée des écrans. On dit qu'il y a eu deux révolutions pour le sommeil. Il y a eu la première, c'était l'arrivée de l'électricité, parce que du coup, il y avait des lumières dans les pièces. Et alors, du coup, comme on disait tout à l'heure, la lumière donne un signal d'éveil et on ne ressent plus le besoin de dormir. Et puis, la deuxième révolution, c'est l'arrivée des écrans dans les chambres. Par contre, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on parle de ceux qui ont des problèmes de sommeil, mais la plupart, enfin, il y a quand même une bonne partie des jeunes et des adultes qui n'ont pas de problème de sommeil. Et alors, dans ce cas-là, en tant que prof ou en tant que parent, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, la première chose, avant de parler de tout ça, si on veut parler de sommeil avec les jeunes, c'est d'abord leur demander, est-ce que vous êtes en forme la journée? Et si oui, bah, c'est super. Et puis, c'est très bien, quoi. Il ne faut pas non plus se dire, ah, bah, j'ai entendu qu'il fallait dormir 8 heures, je dors que 7 heures et quart, catastrophe. Si on va bien, tout va bien. Mm-hmm. D'accord? Donc, il ne faut pas aller chercher non plus des problèmes où il n'y en a pas, parce que ça pourrait induire justement des insomnies. Et puis ça, c'est tout à fait contre-productif.
Mais à force de manque de sommeil plus ou moins chronique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une accoutumance où on a l'impression, après un certain temps, de considérer qu'un état qui est déficitaire et puis avec une énergie peut-être un peu basse, le considérer comme normal, en tout cas chez certains?
Alors non, on ne s'habitue pas au manque de sommeil. Okay. Alors qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Vous vous en doutez. Pardon. Ils récupèrent le sommeil le week-end. Donc les jeunes, enfin et les adultes aussi, hein, mais ils font des grasses maths le week-end. Donc quand on regarde les besoins de sommeil, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut regarder les besoins de sommeil pendant les vacances. C'est quand on est complètement libre de dormir le temps qu'on veut. Donc en fait, on ne s'habitue pas au manque de sommeil. On s'habitue, on va être de nouveau plus stressé, plus fatigué, mais au final, on va avoir besoin quand même de récupérer à un moment donné. Et puis ça, ce n'est pas du tout idéal. C'est pas du tout idéal de récupérer le week-end parce qu'on va décaler les rythmes. Donc on va se coucher plus ou moins tôt toute la semaine. Et puis le week-end, les jeunes font très souvent ça, ça s'appelle le jet lag social. Donc ils vont dormir jusqu'à midi ou 14 heures le week-end. Donc on se réveille tard le samedi, on se réveille tard le dimanche. Puis le problème, c'est que le dimanche soir, on n'a plus sommeil. Donc quand il faut aller dormir à 22, 23 heures, on n'a pas du tout envie. Donc on va dormir à 1 heure, 2 heures du matin et on commence la semaine fatiguée. Donc en fait, oui, on récupère, on trouve toujours bien un moment pour récupérer. Et puis si on ne récupère pas, on s'adapte, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences, sur, comme on l'a dit, sur la vigilance, sur la régulation des émotions.
Et dans ces conséquences, il y en a qui sont peut-être irréversibles, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui ont des conséquences à moyen ou à long terme, même si on retrouve à terme un rythme de sommeil à peu près satisfaisant.
Alors, la bonne nouvelle avec le sommeil, c'est qu'on récupère très bien d'une mauvaise nuit. Donc, si on fait une privation totale de sommeil, si on fait ça dans nos expériences, par exemple, pour étudier le fonctionnement du cerveau, on fait des privations totales, eh bien, en deux nuits, on a totalement récupéré notre dette de sommeil. Il y a eu un des records qu'il ne faut pas essayer de faire, évidemment. C'était un animateur radio qui était resté 10 jours éveillé. Et 8 jours, 8 ou 10, enfin, en tout cas, beaucoup trop. Et en deux nuits, il avait récupéré toute sa dette de sommeil. Donc le cerveau est bien fait. Quand on n'a pas bien dormi, on fait ce qu'on appelle plus d'ondes lentes. Le cerveau, le sommeil profond est encore plus profond. Donc on arrive à récupérer. On ne doit pas dormir autant. Si on a manqué 3 heures de sommeil, il ne faut pas qu'on récupère 3 heures de sommeil. Si on a passé une mauvaise nuit, donc ça c'est une information qu'on donne souvent aux patients qui dorment pas, aux sujets qui dorment pas bien, vous inquiétez pas. Si vous avez passé une mauvaise nuit, votre cerveau va faire le job. Il va faire plus d'ondes lentes, donc plus de sommeil profond, et donc la nuit suivante va être plus efficace. Donc on peut récupérer en peu de nuits, en une ou deux bonnes nuits, on peut récupérer un manque de sommeil.
De même qu'on peut récupérer de certains ados qui disent, moi je fais la sieste dans le bus, ou alors est-ce que j'imagine c'est pas non plus la même qualité de sommeil que d'avoir une nuit plus courte, mais de la compenser la journée en cours, malheureusement, ou dans le bus.
Alors, Alors, la sieste, c'est une grande question aussi chez les ados. En général, donc les enfants font la sieste, et puis les petits-enfants, et puis ils la font plus du tout, hors de question, à 10-12 ans de faire la sieste, et la sieste revient chez les ados. Alors, pourquoi est-ce qu'elle revient ? Elle revient parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont tendance à devenir des couche-tard, lève-tard. Donc, ils vont se coucher trop tard, du coup, ils sont fatigués, et alors, ils vont récupérer. Le problème de cette... la sieste, la pire, c'est la sieste en rentrant de l'école. Ça, c'est la cata. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on rentre de l'école vers 17h, on fait une sieste vers 17-18h, on fait une bonne heure de sieste. Et en fait, pour aller dormir, il y a deux phénomènes. Il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique, qui dépend de la lumière, et aussi la pression de sommeil. Et cette pression de sommeil, elle augmente tout au long de la journée. C'est comme si on peut imaginer ça avec un sablier. Il y a du sable au début, et puis il faut que la partie du bas soit remplie de sable, c'est le niveau de fatigue. Et pour pouvoir dormir, on retourne le sablier, et il faut suffisamment de sable au début pour pouvoir avoir une bonne pression de sommeil. Et bien, quand on fait une sieste le soir, on paye déjà une partie de cette dette de sommeil. Et on n'a pas assez de temps, 18h quand on, 19h quand on se réveille de la sieste, jusqu'à 23h le moment où on va aller se coucher, ben on n'a pas assez de temps pour récupérer cette pression de sommeil, et du coup on a un mauvais sommeil. Et donc cette sieste le soir, elle n'est vraiment pas bonne, elle casse complètement le rythme. Donc les jeunes, ils font une sieste, du coup ils ne sont pas fatigués le soir, ils se retrouvent plein de vitalité pendant la nuit, du coup ils vont se coucher tard, du coup comme ils doivent se lever le matin pour aller à l'école, ils n'ont pas assez dormi, ils sont fatigués toute la journée, ils refont une sieste, ça casse le rythme, etc. Donc cette sieste en fin de journée, nous, en tout cas dans nos ateliers, c'est la première chose qu'on dit aux jeunes. On leur dit, on les challenge, on dit, allez, cette semaine, t'essayes d'arrêter de faire des siestes. Et souvent, ça, avec peu d'autres conseils, parfois ça peut suffire.
Après, c'est vrai que notre forme ou notre organisation scolaire est aussi un sacré défi pour les jeunes, parce que tu l'as dit, ce rythme a tendance à se décaler dans la journée, avec ils se lèvent de plus en plus tard, en tout cas sur une période plus tard, et ils se couchent plus tard. Or, c'est vrai que nos institutions, elles sont prévues pour commencer tôt, à 8 heures. Alors, on a eu un petit changement avec le Covid, où on a tout à coup décidé qu'on commencerait trois quarts d'heure plus tard, notamment au cycle, mais ce n'est pas le cas dans le secondaire 2. Donc là aussi, est-ce que tu vois aussi une, je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort de dire ça comme ça, mais aussi une responsabilité de l'établissement qui devrait, dans une certaine mesure, en tout cas en théorie, s'adapter pour être plus compatible. Mais en même temps, si on s'adapte, est-ce que ce n'est pas aussi, à l'inverse, une invitation pour nos jeunes de se dire « Ah, je me lève plus tard, donc je peux me coucher plus tard ».
Non, non, c'est un point très important, c'est très intéressant. Non, je pense qu'il y a tout à fait une responsabilité des établissements, bien sûr, de l'heure à laquelle ils font commencer l'école. Il faut quand même tenir compte de la biologie et de la physiologie des ados. Ils ont naturellement tendance à se lever plus tard. Alors, on ne va pas commencer l'école à 11 heures, bien sûr, mais l'école commence souvent de plus en plus tôt, plus on avance en âge. Donc, faire commencer l'école à 8 heures, même parfois 8 heures moins le quart, c'est vraiment pas du tout idéal. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives avec le Covid. C'est pour ça qu'on était retourné dans les classes pour poser des questions. Et... oui, c'est tout à fait bénéfique, en fait, de commencer un petit peu plus tard. Il suffit de diminuer un petit peu le temps de midi ou trouver des autres solutions. Mais les jeunes, on y gagne. Les jeunes sont plus vigilants, ils ont mieux dormi, ils sont plus aptes à écouter en classe. Donc oui, en général, les chercheurs sur le sommeil essayent de pousser les politiques pour les motiver à décaler. Mais vous savez, ce qui pose en général le problème, pourquoi ? C'est parce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites où on décalait l'heure du début des classes. Ben, ce sont les parents. Les parents qui mettent un frein parce qu'ils ont envie d'arriver à l'heure au travail.
Avoir les enfants plus tard à la maison, c'est voilà. Arriver plus tard au boulot ou s'en occuper plus
ça.
Longtemps.
Voilà. Alors ça, c'est pour les enfants, les ados. Maintenant, souvent, ils peuvent prendre le bus, etc. Mais c'est sûr que ça, il faut repenser l'organisation de la famille. Mais je pense qu'éviter de commencer l'école trop tôt, la commencer à 8h30, par exemple, c'est quand même beaucoup mieux que 8h ou 8h moins le quart. Ça ne change pas tant que ça dans le... Alors, je ne sais pas, vous commencez à quelle heure l'école ?
7h15.
7h15 ? Waouh !
Donc, c'est des filières professionnelles.
Ouais.
Donc dans les filières professionnelles, avec les aides menuisées, on commence à 7h15 le matin. Donc les jeunes, ils sortent du cycle, ils ont 38 périodes d'enseignement, on en a 50 par semaine, et on commence à 7h15 le matin.
Et pourquoi ? Vous savez pourquoi ça commence si tôt ?
Le milieu professionnel, dans les métiers de la construction, on commence à 7h sur les chantiers. Donc après, la destination de leur formation, ça sera d'être opérationnel de bonne heure le matin, parce que c'est là que ça produit, quoi. Donc c'est vrai que là, on a une nouvelle volée cette année. Il faut en tout cas 3 mois pour qu'il rentre dans le rythme. Et puis, ben, y a beaucoup de discussions sur le sommeil. Ouais. Ouais, on a beaucoup à discuter avec eux, à quelle heure ils se couchent. Alors certains, ils ont tellement de plaisir à venir au travail que... Ils jouent le jeu, puis certains, ils nous disaient encore hier, 7h30, ils se couchent le soir. Parce qu'ils sont fatigués, ils sont debout toute la journée, dans une activité physique. Donc, ils décollent, et en 3 mois, ils y arrivent, quoi.
Ah ouais, c'est super.
Ils arrivent à gérer un peu leur sommeil de cette façon-là. Après, il y en a d'autres qui sont issus de l'immigration, qui ont eu des traumatismes, et ceux-là, c'est des angoisses nocturnes, alors là, c'est plus compliqué. Ouais.
Oui, ça, c'est les cauchemars, on pourra en parler après. Ouais, ouais. Oui, en même temps, je trouve que l'argument de dire plus tard, ils devront le faire, plus tard, le rythme va quand même se recaler un petit peu. Donc, c'est vers 20 ans qu'on a le plus couche-tard, lève-tard, et avec l'âge, on redevient progressivement plus du matin. Donc, on pourrait finalement quand même leur laisser un petit peu de répit pendant leurs études pour suivre un petit peu leur rythme biologique. Mais c'est pas facile. Oui, c'est... C'est des choix compliqués, mais qui méritent d'être posés, je pense.
Mais on vous accueille volontiers pour faire avec notre classe.
Oui, je veux bien.
Ouais, le message est passé. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu aux écrans. C'est vrai que, alors pour beaucoup de nos jeunes, une partie de leur vie passe à travers ou avec les écrans, parce qu'une partie de leur vie sociale, je pense, de plus en plus passe aussi par là. Et c'est vrai que là aussi, je pense qu'on a un sacré challenge parce que tu parlais de la lumière bleue et des effets directs sur les besoins d'endormissement. Après, j'ai aussi des fois l'impression qu'il y a aussi cette espèce de conscience, et on en revient aux notifications nocturnes, qu'il y a beaucoup de choses importantes, entre guillemets, qui se passent pendant la nuit et qu'il ne faut pas les louper. Et donc, souvent, de dormir, c'est de manquer certaines choses. Enfin, c'est le fameux FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer des trucs importants. Et donc, on va volontairement mettre des mécanismes en place pour essayer de rester éveillé ou se réveiller pour pas louper tout ça. Donc ça, j'ai l'impression que ça dépend pas que de l'élève, mais ça dépend aussi un peu du groupe, parce que si l'élève est le seul à savoir qu'il est laissé de côté, que son téléphone est laissé de côté, qu'il y a une partie de la vie importante qui va continuer à se passer sans lui. Puis ça, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est difficile à supporter.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait important. C'est pour ça que je pense que même si le sommeil, c'est quelque chose de très personnel qui se fait à la maison, c'est important d'en parler en classe. Et je pense qu'il y a quand même un rôle des profs et des personnes qui travaillent avec les jeunes de replacer, de remettre le contexte. Parce que si on dit devant une classe, bon, franchement, la nuit, on dort tous, a priori. Donc, si on se met tous d'accord sur le fait que la nuit, on dort tous, eh ben, on va moins avoir peur qu'on loupe quelque chose, puisque on s'est tous mis d'accord que je suis pas le seul, je suis pas la seule à dormir la nuit, je suis pas la seule à louper quelque chose. Tout le monde est en train de louper quelque chose puisqu'on dort. Donc, c'est vrai que c'est étonnant qu'il faille remettre ce genre de choses sur le tapis, mais je pense que c'est en fait fondamental de rappeler ce genre de choses. Et là, il peut y avoir un rôle de l'école. Je pense qu'il faut pas hésiter à en parler parce que c'est des fausses croyances, en fait, de se dire je loupe quelque chose. Parce qu'en fait, les autres copains, ils dorment aussi.
Oui, bon, après, je pense qu'il y a clairement dans les groupes, s'ils se réveillent la nuit parce qu'il y a des notifications, c'est bien qu'il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Et que même si c'est une frange relativement limitée, ben, il y a quand même une certaine activité.
Bien sûr. En même temps, on sait quand on a le téléphone à côté de soi, rien que même à l'éveil, si on a notre téléphone posé à côté de nous, on sait qu'on va être plus vigilant. Quoi qu'il arrive, si on arrivera moins à se concentrer, si on fait des études de vigilance, si on met le téléphone sur la table ou si on le met dans la pièce d'à côté, on sait que si on est dans la pièce à côté, on va être plus vigilant que s'il est sur la table. Donc la nuit, de nouveau, le fait de l'avoir, on va se réveiller en se disant qu'on va louper quelque chose. Et le fait de se dire qu'on va louper quelque chose, ben, comme on est réveillé, ben, autant envoyer une notification. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux qui est effectivement très important. Et je pense qu'il vaut la peine qu'on discute comme on fait maintenant et qu'on en parle régulièrement aux jeunes. Je crois que ça vaut la peine vraiment d'en discuter parce que c'est un vrai problème. Oui.
J'imagine que tu t'es aussi intéressé un peu à ce que d'autres études ici et là avaient fait sur le sujet. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup de ces études, notamment l'impact des écrans sur la santé mentale ces dernières années. Je ne sais pas si tu as des liens ou des choses à mentionner de ce côté-là.
Alors, il y a beaucoup d'études qui se font. Le problème principal de toutes ces études, c'est que l'utilisation des écrans change tellement vite que l'étude, une fois qu'elle est publiée, elle n'est pas obsolète, bah, parce qu'elle est quand même intéressante. Mais on a toujours un train de retard sur l'étude de ces phénomènes, tellement ça change énormément. Nous, on a commencé à s'intéresser au sommeil des jeunes il y a 10 ans. Le temps d'écran n'était pas du tout le même. Ça a vraiment changé avec maintenant tous ces Insta, tout ça, qui ont voilà, ils scrollent et puis les programmes sont beaucoup mieux faits pour être beaucoup plus addictifs. Donc les programmes, enfin, ça change énormément. Alors, les autres études, la plupart vont dans le même sens. C'est-à-dire que toutes les études qui étudient l'impact des écrans, d'abord sur le sommeil, montrent la même chose. C'est-à-dire que chez les jeunes enfants, il y a des effets, mais qui ne sont pas très forts, parce que les parents sont toujours là. Il y a peu de parents qui laissent leur bébé de 3 ans toute la nuit sur un téléphone. Ça, il y a peu. heureusement. Hein, chez les enfants, il y a des effets, mais ils sont encore, en tout cas la nuit, je parle d'abord, moyennement marqués. Chez les ados, toutes les études qui travaillent sur les ados montrent un lien fort entre l'utilisation des écrans la nuit et le manque de sommeil. Donc ça, c'est vraiment un consensus scientifique qui a été fait. Maintenant, sur l'utilisation des écrans la journée, y a de plus en plus d'études aussi. Les résultats sont complexes, c'est-à-dire ça dépend énormément de ce qu'on fait sur les écrans, comment on les fait, si on le fait tout seul ou avec d'autres gens, donc la durée, le contenu et la manière.
Donc, comme on dit souvent, il n'y a pas que le temps d'écran en soi qui compte, mais il y a aussi ce qu'on y fait et comment on le fait.
C'est ça. Donc je pense que ce qui est mauvais, c'est faire tout le temps la même chose. Mais c'est comme un enfant qui jouerait tout le temps avec un cube rouge et un cube bleu. C'est pas idéal non plus. L'idéal, c'est de jouer avec des cubes et puis d'aller courir dans le jardin et puis de parler avec les parents et puis de chanter une chanson. L'idéal, c'est de varier les activités. Le problème avec les écrans, c'est si on fait en permanence la même chose. Si on a un seul jeu, on joue tout le temps au même jeu, ou si on est tout seul en interaction. Donc c'est plutôt ça le problème. Et puis il y a différents problèmes. On peut en parler aussi pendant des heures. L'impact des écrans à l'éveil. Le problème aussi, c'est la théorie du remplacement. C'est-à-dire, si on fait ça, on fait pas autre chose. Mm-hmm. En soi, faire de l'écran, c'est pas très grave. Si on regarde une petite vidéo adaptée ou si on fait un petit jeu adapté, c'est pas très grave. Le problème, c'est que si on passe du temps à faire ça et qu'à côté, on va plus jouer dehors, on va plus voir les copains, on fait plus que ça. La mono-activité la théorie du remplacement. Et puis chez les tout-petits, là, les écrans sont vraiment pas bons parce que les tout-petits ont besoin d'apprendre par mimétisme, apprendre à regarder le regard des parents, le regard des profs, apprendre à toucher un objet. Alors on a beau regarder un dessin animé où on a le personnage qui nous regarde, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interaction. Si un petit enfant regarde une vidéo, il va voir des émotions de tristesse, de colère et de joie, mais pas en fonction de ce que lui a apporté comme émotion. Donc au niveau du développement, ça, oui, là c'est très important.
Et tu parlais souvent de cette mono-activité qui va remplacer d'autres, peut-être plus différentes. Ça débouche aussi, j'imagine, entre ça et l'absence de sommeil sur des problèmes de sédentarité importants ou potentiellement importants, et potentiellement aussi sur des maladies chroniques par la suite. Le fait que je sois tout le temps sur mon écran, en plus de ça que je sois fatigué, donc j'ai moins d'énergie pour aller, pour sortir, pour me bouger, ça ouvre la place à ce genre de choses ou...
Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout, comme toujours, l'excès nuit en tout. Chez les petits, si on a... Alors, c'est des cas quand même graves et très forts, mais il y a des enfants qui ont des symptômes qui sont similaires à des symptômes autistiques parce qu'ils sont passés trop de temps sur les écrans. Donc là, oui, ça peut induire des problèmes de développement. on l'a dit tout à l'heure avec le sommeil, si on ne dort pas du tout, on va avoir plein de conséquences qui sont liées au manque de sommeil. Donc oui, l'excès nuit en tout, et si les enfants et les adolescents passent trop de temps sur les écrans, ça va avoir des conséquences. Par contre, je pense que si on est dans un discours qui est que diabolisant, je ne pense pas que ce soit constructif non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même être réaliste et vivre avec les écrans aussi. On ne peut pas juste dire « il faut passer son temps à jouer dans le jardin et plus du tout faire comme si les écrans n'existaient pas. Je pense que ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, si on veut accompagner comme il faut les enfants et les adolescents, c'est proposer un discours qui est concret et qui est réaliste. C'est-à-dire expliquer pourquoi ce n'est pas bon de faire trop d'écrans, qu'il faut faire autre chose. Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait des règles. Les tout-petits, il ne faut vraiment pas d'écran, parce que quand ils sont dans le développement, dans le regard, dans le toucher, etc. Les enfants un petit peu plus grands, il faut vraiment limiter. Les ados, ça doit être à certains moments donnés. Mais si on arrive en disant dans les classes... on vous conseille de faire zéro écran, jetez vos téléphones à la poubelle, ils vont nous dire ils ne nous écouteront pas. Donc il faut arriver à trouver, à convaincre, à expliquer en quoi c'est bon, pas bon, trouver des fenêtres de temps qui sont optimales, et essayer de varier ce qu'on fait sur les écrans.
Parce qu'en effet, on a déjà entendu plusieurs fois différentes études, différentes personnes qui amenaient ces espèces de bornes d'âge d'utilisation en disant jusqu'à 11 ans, c'est pas de téléphone passe-partout, pas de réseaux sociaux à partir de 13 ans, voire 16 ans dans certains pays. Ça, à ton sens, c'est une solution possible pour améliorer, gérer, encadrer ces problèmes d'écran. Parce que c'est vrai qu'aussi, très souvent, j'ai l'impression qu'un des problèmes, c'est que tu en parlais tout à l'heure, mais nos jeunes sont livrés face à des outils qui sont des sacrées machines addictives. Hein. On l'est aussi, nous, directement, qui ont été conçues et qui sont faites pour capter notre attention au maximum.
Oui, je pense que ça aide, parce qu'en fait, le problème principal, c'est, j'ai l'impression, en tout cas, moi-même en tant que maman, je trouve que comme on n'a pas connu ça quand on était jeune, on a du mal à mettre des règles, on a du mal à décider ce qui est bon ou pas bon, parce que ça ne nous parle pas, puisqu'on ne l'a pas vécu. Donc je pense qu'avoir des règles, des bornes, des canevas, c'est pas mal, parce que, alors... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents qui s'en inquiètent, qui mettent des règles, mais on ne sait pas du tout si on est dans le bon ou si on est complètement à côté de la plaque. Donc avoir un minimum de règles, je crois que c'est pas mal. Alors on fait ce qu'on peut, etc. Mais par exemple, c'est pour ça que l'étude qu'on avait faite en disant la règle qui fonctionne, c'est sortir le téléphone de la chambre, mais mettre en mode avion, ça ne marche pas, ça aide. Alors on peut... il y en a plein qui conseillent, je pense que c'est pas mal de discuter avec le jeune et lui dire qu'est-ce que tu penses qui est faisable, parce que si on met des règles impossibles, ça marchera pas. Mais en tout cas, avoir des canevas, des idées, tiens, est-ce que je suis plus ou moins dedans ou pas, je pense que c'est pas mal, ça peut aider. En tout cas, les parents qui sont perdus et qui savent plus quoi dire comme règle pour les jeunes.
Ouais, et ça me... Justement, cette histoire de mode avion sur le téléphone la nuit, ça ne marche pas. Moi, ça me fait aussi penser à une méta-étude que relevait notamment le rapport enfant, écran et enfant à la recherche du temps perdu, qui disait justement aussi que la simple proximité d'appareils numériques dans le sac des élèves en classe, même en appareil éteint, ça baissait les performances scolaires, parce qu'il y a une partie du cerveau, de l'attention qui est accaparée par cet outil, et on continue plus ou moins à penser à cette chose. Donc, j'imagine que c'est un peu la même chose la nuit, savoir qu'il est à proximité, ça fait que peut-être que je dors moins profondément, parce que peut-être qu'il pourrait sonner, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe.
C'est ça. Et puis, on se dit, comme je disais tout à l'heure, si ça se trouve, il va y avoir une notification hyper importante qui ne peut pas attendre 7h du matin. Alors que s'il est plus loin, on sait que de toute manière, on ne le regardera pas. Donc, on n'essaie même pas de se réveiller. Et du coup, on peut dormir d'un sommeil plus profond. Quoi. Oui.
Je me posais une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu deux révolutions pour le sommeil, l'électricité et le téléphone. Puis là, on parle des solutions pour le téléphone. Pour l'électricité, il y a maintenant des solutions qui sont proposées?
C'est une
bonne
question.
On commence par le téléphone.
Pour l'électricité, c'est compliqué de dire à toute la ville d'éteindre les lumières. Mais on le fait de plus en plus maintenant. Il y a des communes, c'est vrai, qui éteignent les lumières la nuit. On a quand même gagné en qualité de vie en pouvant choisir nos rythmes et pouvoir vivre un peu le soir et pas juste avec le soleil, heureusement, parce qu'en hiver, on vivrait pas tard le soir. Donc non, pour l'électricité, il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement de solutions, à part avoir une bonne hygiène de sommeil. Quoi.
Mais du coup, ça a encore des conséquences aujourd'hui sur notre qualité de sommeil et donc de vie? Est-ce que ça a encore des conséquences?
On sait qu'on dort moins. On dort moins qu'avant. Oui, on dort moins qu'avant.
Ou alors, il faudrait mettre en avant le camping pour toutes et tous, plus souvent.
Voilà. Mais on garde quand même les téléphones au camping.
Ouais, exactement. Absolument. Et je ne sais pas, pour toi, la suite, je ne sais pas, c'est peut-être tôt pour en parler, ou je ne sais peut-être pas forcément l'endroit pour en parler. pas de pression là-dessus, mais la suite de ton étude ou pour l'avenir, tu vois les choses comment dans ces recherches, l'application, enfin aussi cette collaboration avec le DIP.
Nous, la suite, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir étendre cette information sur le sommeil. Donc, on en a discuté, c'est pas si simple, c'est pas noir ou blanc le sommeil. On peut pas juste dire aux profs, parler du sommeil, il faut dire aux élèves de bien dormir, c'est pas ça. Il faut discuter ensemble de la nuit, en fait, si on est tous en train de dormir, donc ce serait bien de sortir le téléphone. Il faudrait, donner tout un, on peut en parler après, les conseils de sommeil. Mais. Donc, c'est bien de donner des conseils, mais en même temps, il ne faut pas mettre trop de pression sur le sommeil non plus, sinon ça va induire des insomnies. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir donner des clés en main, donner du matériel pour que les profs, les infirmiers scolaires ou les médecins scolaires, etc., puissent donner des conseils adaptés sur le sommeil. Donc, l'idée, c'est vraiment toucher le plus grand nombre. On se rend compte... De plus en plus, on parle quand même du sommeil, on a l'impression dans les médias, même dans les discussions, c'est quand même un sujet qui vient un petit peu plus sur la table. Et on aimerait bien pouvoir surfer sur cette vague et essayer que chaque jeune puisse, comme on parle des médias ou du numérique, qu'on puisse parler un moment aussi du sommeil et s'adresser à ceux qui dorment bien, mais surtout à s'adresser à ceux qui ne dorment pas bien. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui ne dorment pas bien et qui n'osent pas les consulter parce qu'ils estiment que c'est normal. Donc voilà, ce serait de faire à plus grande échelle ces ateliers sur le sommeil.
Et ça, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je pense que pas mal d'enseignants et enseignantes, de collègues, sont pas forcément non plus à l'aise sur ces questions ou n'ont pas forcément, c'est vrai, les compétences, les connaissances pour le faire. Ça sort souvent un peu de leur mandat premier, c'est-à-dire lié à discipline ou à une série de disciplines.
Mais c'est comme un peu le numérique, ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Felsem, c'est-à-dire qu'au début, ça sortait un petit peu des capacités des profs, et puis finalement, on met les mains dedans, on n'a pas le choix, on s'adapte. L'idée, ce serait de faire un petit peu la même chose, peut-être faire des formations pour les professeurs, leur donner du matériel, s'ils ont des fiches, par exemple, il y a du matériel qui est très bien fait par des gens de Lyon, mais c'est pour les enfants, ça s'appelle Mémé ton pige. Donc chaque prof qui est enseignant pour les primaires peuvent aller sur Internet, télécharger ça. C'est des fiches ludiques qui peuvent être utilisées en classe et il n'y a pas besoin d'être expert du sommeil. Ça parle du sommeil aux enfants. Nous, on aimerait bien faire ça un petit peu pour les adolescents. C'est-à-dire
Mémé ton pige.
Mémé ton pige, comme une mamie. Mais c'est Mémé ton pige, mais avec le mot de mamie. Une mamie qui met son pyjama.
Ok, donc P-Y-J.
M-E-M-E-T-O-N-P-Y-J.
Ok.
Voilà, donc ça, c'est, il n'y a pas besoin d'être expert en sommeil pour faire ça, par exemple, et puis ça marche très bien.
Ok. Est-ce que tu aurais des conseils en attendant que ce matériel soit disponible, si on a des collègues qui souhaiteraient aborder ces questions en classe, qui souhaiteraient travailler sur ces questions avec leurs élèves?
Oui, alors je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de rappeler l'importance du sommeil. Le sommeil, c'est important pour pas uniquement ce qu'on fait pendant la nuit. Le sommeil, c'est important pour comment on fonctionne la journée. Le sommeil aide à consolider la mémoire, il aide à réguler nos émotions, il aide à être vigilant. Et donc, la première chose, c'est de prendre conscience que faire attention à son sommeil, c'est faire en sorte de fonctionner bien la journée et de s'aider à avoir des bons points en classe, à aller bien à l'école et dans sa vie personnelle. Ensuite, je pense que le deuxième point, donc c'est d'abord comprendre que c'est important de dormir. Le deuxième point, ce serait d'expliquer comment ça se fait qu'on dort. Et là, ce serait expliquer cette pression de sommeil et cette horloge biologique. Donc la pression de sommeil, c'est plus on reste éveillé longtemps, plus on va avoir envie de dormir. Donc si je vais dormir à 23 heures, j'aurai plus envie de dormir que si je vais dormir à 21 heures. Par contre, si je fais une sieste, ça va casser ma pression de sommeil. Et si je vais dormir à 4 heures du matin, là, j'aurai une grosse pression de sommeil. Et puis le deuxième, c'est cette horloge biologique qui est liée à la lumière. Et donc, le fait d'avoir des écrans tout près, ça peut perturber cette horloge biologique. Donc, je pense qu'il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on dort et comment ça se fait qu'on dort. Et la physiologie du sommeil, par exemple, ça, le fait de savoir qu'on se réveille toutes les heures et demie, par exemple, tout le monde, et que c'est normal. Donc, du coup, ça permet de diminuer la pression. Mince, je me suis réveillée cette nuit, c'est que j'ai mal dormi. C'est bon. Et puis, la troisième, c'est donner des conseils pour bien dormir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour bien dormir ? On a des conseils d'hygiène de sommeil. Par exemple, Dormir régulièrement, aller dormir tous les jours régulièrement, essayer d'éviter d'aller dormir une fois à 21h, une fois à minuit, parce que du coup, on n'entraîne pas notre horloge biologique à bien dormir. Donc si on va dormir régulièrement, et ça y compris le week-end, c'est-à-dire éviter les trop gros écarts, pas faire une grasse mat jusqu'à 13h, ça fait en sorte qu'on dort mieux. Faire du sport la journée, ne pas boire des boissons trop excitantes en fin de journée. Et puis, ce qu'on voit souvent aussi chez nos jeunes dans les ateliers, c'est que ça, c'est très, vraiment très spécifique aux jeunes, c'est qu'ils rentrent de l'école et puis ils vont se mettre dans leur lit et ils passent une partie de la soirée à moitié couchés dans leur lit sur leur téléphone. Et ça, c'est vraiment très spécifique parce que nous, les adultes, on va, je sais pas, préparer le repas ou on va se mettre, en tout cas, dans le salon, on va pas aller dans notre lit.
Non, mais on va peut-être s'affaler dans le canapé.
Oui, c'est mieux de s'affaler dans le canapé que dans son lit. Pourquoi ? Parce que un jeune qui a passé 4 heures de 18h à 22h dans son lit, au moment où il doit aller se coucher, le lit n'est plus du tout associé au fait de dormir. Donc ce qu'il faut, c'est, ce qu'on leur apprend, nous, c'est de réassocier le lit à dormir. Donc donc c'est mieux de glander dans le canapé que dans son lit. C'est mieux de glander au milieu du salon. Le but, ce n'est pas de se dire on doit rester hyper actif et devenir hyper vigilant toute la soirée. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est rester dans son lit alors qu'on n'y dort pas.
Parce que l'idée, c'est que le cerveau associe cette chose, ce lit, à pas forcément le sommeil la nuit, mais à tout un tas d'autres choses, c'est ça ?
C'est ça. C'est un conditionnement entre le lit et le sommeil. Donc, l'idéal, c'est de... Alors, on dit par exemple aux jeunes... Enfin, l'idéal, c'est de ne pas rester dans son lit avant de vraiment avoir envie de se coucher. Alors, le problème, c'est que les jeunes, ils n'ont pas tout le temps envie de rester avec les parents au milieu du salon. Ils ont plutôt envie d'aller dans leur chambre. On peut comprendre. Alors, ce qu'on leur propose, c'est soit mettre un plaid, par exemple, sur le lit, soit être assis pour regarder une série et pas coucher en pyjama dans son lit. Donc, on leur dit, la soirée, tu as le droit de regarder une série sur ton téléphone, tu as le droit d'être relax et détendu, mais ne te glisse pas sous la couette dès 18h. Donc, reste plutôt assis sur ton lit en mode confortable, avec un coussin dans le dos, etc. Il ne faut pas non plus être mal assis pour la cause. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, ça s'appelle contrôle du stimulus. On contrôle l'endroit, le lit, c'est fait que pour dormir.
Ça va être le grand retour des plaids et des couvre-lits qui ont eu tendance à disparaître ces dernières années.
On transforme le lit en canapé. Il y a l'environnement jour et l'environnement nuit.
Vous avez parlé de plusieurs conseils. Je ne vous ai pas entendu parler de train du sommeil. C'est un neuromythe, train du sommeil ?
Alors non, ce n'est pas du tout un mythe. C'est effectivement ce qui se passe. Pendant la nuit, on a donc des cycles du sommeil. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a différents... En fait, la nuit, elle n'est pas du tout homogène. On a différents stades de sommeil. On commence par le sommeil léger, et puis on passe au sommeil profond. Puis on a le sommeil paradoxal. Et le sommeil profond, c'est le sommeil où on récupère, c'est là où on a des ondes lentes. Et puis le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Et alors, à la fin de chaque cycle, on se réveille. On a des petits réveils, en général, qui durent quelques secondes, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on s'en rend un petit peu plus compte, mais c'est tout à fait normal et tout à fait physiologique. Donc, on a, pendant la nuit, ces différents cycles qui alternent. On a 4 ou 5 cycles par nuit. Mais finalement, sur les conseils d'hygiène de sommeil, ça n'a pas tellement d'influence, en fait.
Parce que moi, je me souviens qu'on me disait petite qu'il ne fallait pas que je rate le train du sommeil, que je vais me coucher, qu'il y avait un moment, mon cerveau me donnait une information, que j'étais fatiguée et que c'était le début d'un train et qu'il fallait le prendre en gare. Ce n'est plus un truc qu'on dit.
Ah si, on peut toujours le dire, mais c'est en fait, c'est-à-dire qu'il y a des cycles du sommeil. Si vous allez tous les jours coucher à 22h, vous allez commencer votre cycle du sommeil. Alors plus vous êtes régulière, plus le cycle va fonctionner. Mais si vous allez à 22h30, la pression de sommeil sera quand même un peu plus forte. Okay. Ça va quand même marcher. Parce que le problème de ça, de se dire « j'ai loupé le cycle, j'y vais dans 1h30 ». Alors là, non.
C'est un peu ce que je me disais.
Donc c'est pour ça que, oui, les cycles existent, mais dire « j'ai loupé mon cycle, je vais attendre encore un peu », je pense que ce n'est pas un bon message.
Les cycles, c'est plutôt une fois qu'on est endormi.
Une fois qu'on est endormi, on a les cycles. Ouais.
Merci.
Et puis, je passe vite. Et puis là, par rapport au cycle, justement, l'idée, c'est... Il y a un moment, on en parlait beaucoup aussi, en tout cas, je l'entendais souvent, de dire qu'il faudrait éviter de se réveiller au plein milieu d'un cycle, c'est-à-dire dans une phase plutôt de sommeil profond. Et que là, ça peut aussi avoir un effet sur... non seulement sur le réveil, mais sur le reste de la journée. Et ça, c'est encore quelque chose qui se dit aujourd'hui ou...
Alors, l'idéal, dans le meilleur des mondes, c'est de se réveiller à la fin d'un cycle. Parce qu'on a suffisamment dormi. Donc en fait, le message serait si... alors c'est, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on se réveille en plein milieu d'un sommeil profond, ben on va être tout groggy, quoi. On va être encore un peu endormi et on va mettre beaucoup de temps à se réveiller. Alors ce qu'il y a, c'est que le sommeil profond, il est présent en début de nuit et plus on avance dans la nuit, moins il y a de sommeil profond. On paye vraiment notre dette de sommeil au début de nuit parce qu'on est resté éveillé toute la journée, on a besoin d'une grosse quantité de sommeil profond et plus on avance dans la nuit, moins on a de sommeil profond. Donc si on se réveille à une heure normale, il y a peu de chances qu'on soit dans un sommeil vraiment très profond. Et alors, bah, l'idéal, ce serait qu'on ait suffisamment dormi et qu'on sorte de son cycle. Donc, si on veut se réveiller comme il faut dormir, aller dormir suffisamment tôt. Maintenant, voilà, si on met un réveil tous les jours à la même heure et qu'on se réveille en stade 2, qui est un sommeil lent léger, on va mettre plus de temps à se réveiller que si on était en sommeil N1, encore un peu plus léger. Mais c'est juste qu'on va avoir une inertie de sommeil plus longue. On va être un peu endormi un petit peu plus longtemps.
Moi, c'était une question qui porte sur les extrêmes. Dans les cycles du sommeil, est-ce qu'il y a eu des études sur les marins du Vendée Globe qui, eux, ont un rythme un peu infernal, je crois?
Alors, c'est une bonne question. C'est très intéressant. Je connais assez peu le sommeil des marins. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'justement, ils font un seul cycle. Donc, ils dorment en général des cycles... Enfin, ils font une heure et demie qui fait un seul cycle. Donc, ils essayent d'avoir tous les stades de sommeil. Et puis après, ils se réveillent. Donc, je sais qu'ils ont besoin d'un certain entraînement pour arriver à tenir ces cycles-là. Parce que normalement, on est censé enchaîner le cycle suivant. Et puis, il faut la succession de tous les stades de sommeil. Parce que chaque stade de sommeil a un rôle assez spécifique. Et donc, je suppose qu'ils doivent avoir à chaque cycle tous les stades de sommeil pour fonctionner correctement. Sinon, ils auraient des problèmes dans la prise de décision, dans la vigilance, etc. Mais oui, c'est des sommeils très, très particuliers, ça.
Mais un ado qui s'entraîne, il pourrait jouer avec ça, puis scroller plus longtemps.
Ben, tout le monde qui s'entraîne peut à un moment y arriver, mais à un moment, il faut quand même bien les placer. Le marin, il le fait ça même la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il dort qu'une heure et demie la nuit. Il dort une heure et demie, mais de jour comme de nuit. Donc au final, si on prend... Alors de nouveau, je ne suis pas du tout une experte du sommeil du Vendée Globe. Mais je pense qu'au final, si on prend le total, il a les heures de sommeil, le marin.
Tandis... Elles sont réparties.
Voilà, elles sont réparties tout le temps pour pouvoir ne pas laisser le bateau naviguer tout seul pendant 8 heures d'affilée, mais plutôt à chaque fois une heure... par morceau d'une heure. Mais les ados, c'est pas ça qu'ils font. Eux, ils réduisent le temps de sommeil. Et puis ça, c'est pas idéal.
Ouais, ils réduisent non seulement pour avoir plus de temps sur les écrans. Moi, j'ai aussi certains élèves qui sont très, très consciencieux, très scolaires, qui continuent à travailler tard dans la nuit, vraiment, et qui se couchent tard parce que... alors peut-être que là aussi, je sais pas si c'est la responsabilité de l'institution ou si c'est leur anxiété qui parle, la surcharge de travail, je sais pas, mais une tendance à continuer à faire leurs devoirs, leur travail assez tard dans la soirée, voire dans la nuit, pour tout terminer. Et puis des fois, ils ont des têtes pas possibles le matin. Hein.
Oui, alors c'est vrai que ça, on en a vu aussi des jeunes qui travaillaient très tard. Puis ça, c'est pas du tout idéal. On en revient aux ruminations. Si on finit d'étudier pour une évaluation le lendemain, on clape le livre et puis on va se coucher, fatalement qu'on va pas bien dormir. Parce qu'on va... C'est très stressant, quoi, de devoir réviser juste avant. Alors... Il faut voir aussi la situation. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, c'est une mauvaise organisation du temps après l'école. Souvent, il y a plein de profils différents, hein, mais les profils qu'on a eus souvent disent « Oui, mais moi, je travaillais le soir de 10h à 22h, enfin, de 21h à 23h minuit, je travaille parce que j'ai pas le choix, j'ai plein de travail. » Et en fait, quand on regarde l'organisation de la journée, du coup, ils travaillent tard, puis ils vont à l'école le matin, ils sont fatigués, et quand ils rentrent chez eux, ils sont trop fatigués pour s'y mettre. Donc, il y en a qui travaillent probablement 4, 5 ou 6 heures le soir après l'école, mais nous, ce qu'on voit, c'est souvent, il y en a aussi qui organisent mal leur temps de travail. Ils rentrent de l'école, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils sont fatigués, ils ont envie justement d'aller sur le téléphone, de profiter, de prendre un peu de bon temps. Ils ont bien raison de prendre du bon temps, mais il ne faut pas que le temps il dure trop long, quoi. Il se rallonge. Donc, en fait... Nous, ce qu'on essaie, c'est de réorganiser, de dire, écoute, essaye d'arrêter de travailler à 21h, mais du coup, ce temps-là, où est-ce que tu le places? Tu le places avant, là, peut-être où tu faisais la sieste parce que tu étais fatigué. Si tu ne fais pas la sieste, en fait, tu retrouves du temps de travail, tu vas y dormir un petit peu plus tôt et la soirée est mieux organisée. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent, je pense, beaucoup. Il y en a bien sûr qui travaillent beaucoup. Mais je pense que, de toute manière, à partir d'un moment donné, si on a travaillé, s'il rentre à, je sais pas, 17h ou 18h, et s'il travaille jusqu'à minuit, ça leur fait énormément d'heures de travail. Ils gagneraient, à mon avis, à faire un petit peu moins de travail et à avoir plus de sommeil, et du coup être plus vigilants et plus efficaces dans le travail qu'ils feront le lendemain, que de grappiller une heure de plus à moitié endormi, à moitié vigilant, quoi.
Et là aussi, l'idée est que, je dis des bêtises, où le sommeil favorise aussi la mémorisation de ce qu'on a pu voir, et que ça se fait plutôt sur des périodes un peu plus longues que juste la veille avant l'éval.
Alors, le sommeil consolide la mémoire. Ça, on a beaucoup utilisé ça, notamment dans le laboratoire. Quand on dort, on repense, on réactive tout ce qu'on a fait la journée. Donc, ici, là, tout ce qu'on a discuté, pendant la nuit, peut-être vous allez y repenser. Vous allez retravailler.
On en reparle demain.
Voilà. Pendant le sommeil, on sait que les régions cérébrales qui sont activées à l'éveil sont rejouées, sont réactivées en sommeil. Donc on repense, et alors on sélectionne ce qui est important. Ça c'est important, je vais le garder. Ça, je n'y pense pas parce que ce n'était pas très important. Et donc on va renforcer les liens entre les neurones qui ont travaillé pendant l'éveil. Donc le sommeil est très important pour consolider la mémoire. Donc effectivement, si on étudie, vaut mieux étudier la veille pour une évaluation que le jour même, ça c'est certain. Par contre, dans les processus de mémoire, plus on répète, si on fait que la veille à la dernière minute, c'est pas idéal non plus, mais ça, c'est le fonctionnement global de la mémoire, qui est que une trace mnésique, au début, elle est fragile, elle est peu résistante aux interférences, et pour pouvoir la consolider, il faut y repenser, la remémoriser plusieurs fois.
Comme on est au SEM, je voulais quand même parler un tout petit peu d'outils technologiques. Est-ce qu'il y a des outils technologiques pour bien dormir? Je pense, par exemple, vous en avez un petit peu parlé, parce que vous les utilisez dans vos recherches, mais les montres connectées qui peuvent faire des mesures du sommeil, est-ce que ça peut aider les jeunes? Et puis, les simulateurs d'aube, je ne sais pas s'il y a des études qui disent si ça marche ou pas, si ça aide à se réveiller de bonne humeur.
Alors, prendre de la lumière, les simulateurs d'aube, c'est une très bonne idée. Okay. Ça, c'est vraiment très chouette, parce que surtout pour les jeunes qui ont justement ce décalage de phase, quand on est un couche-tard, lève-tard, la solution, c'est de prendre la lumière le matin. Mm-hmm.
Et juste avant que tu continues, que ce matin, les simulateurs d'aube, c'est donc ces réveils, on planifie une heure de réveil, et puis c'est il y a de la lumière qui est croissante,
de plus en plus forte,
et qui normalement ça permet de se réveiller en douceur. C'est ça l'idée. Je sais au cas où des personnes ne connaissent pas.
Oui, alors c'est ça. Avoir un réveil qui donne de la lumière le matin, ça c'est vraiment une très très bonne idée, surtout pour les jeunes qui ont du mal à se réveiller. Ce qu'on donne comme conseil pour ces décalages de phase, c'est par exemple essayer d'aller le matin à pied au lieu du bus, ou alors sortir un arrêt plus tôt du bus, pour prendre de la lumière le matin. C'est vraiment, quand on n'arrive pas à se coucher le soir, aller dire aux jeunes « tu dois aller te coucher plus tôt », non, ça ne marche pas. Ils le savent bien qu'ils doivent aller coucher plus tôt. L'idée, c'est de travailler sur le matin, d'être le plus actif possible le matin et de prendre le plus possible de lumière. Donc que ce soit la lumière du soleil, bon ça c'est le mieux, mais bon si on est en hiver et qu'il fait noir, ces simulateurs d'aube, ça c'est vraiment très 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 très, très chouette. Okay. Donc oui, ça a plutôt à recommander. Ça s'appelle la luminothérapie, même dans les pays nordiques en hiver, ils font la luminothérapie. Ça marche bien pour le sommeil. Du coup, ça nous dit au cerveau, c'est le matin dès le début, quoi. Donc, et alors le soir, par conséquence, on va sentir un petit peu plus la fatigue le soir si on a pris beaucoup de lumière la journée. Ça marche bien donc dans les pays nordiques pour la dépression, pour la qualité de sommeil, etc. Maintenant, concernant toutes ces applis qui mesurent le sommeil, là, j'ai plus de réserves. D'abord parce que les applis, elles nous donnent les différents stades de sommeil avec uniquement le mouvement. Or, c'est impossible. Okay. Les stades de sommeil, il y a moyen uniquement de les déterminer avec des électrodes sur la tête. Alors, les téléphones, à part ma connaissance, ne mettent pas des électrodes sur la tête.
Pas encore.
Alors, il y a moyen, avec des bracelets qui mesurent le rythme cardiaque, il y a quelques applis maintenant qui fonctionnent plus efficacement avec le rythme cardiaque. Mais, de manière générale, mesurer de manière excessive son sommeil, ça induit une anxiété par rapport au sommeil. Alors, souvent, ces mesures, elles ne sont pas tout à fait justes. Donc, on va vous donner des mesures qui ne sont pas tout à fait justes et qui vont induire une anxiété liée au sommeil. Donc, si on dort vraiment très bien et qu'on mesure son sommeil, qu'on n'a pas d'anxiété, de performance de sommeil, etc., ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on est insomniaque, qu'on est stressé par rapport à son sommeil et que tous les matins, on va surveiller si on a fait suffisamment de sommeil profond alors que c'est une mesure qui n'est pas fiable, eh ben, en fait, ce n'est pas, c'est pas idéal. Ça va plutôt renforcer cette insomnie, ce sentiment d'insécurité. Je n'ai pas assez performé. C'est vraiment souvent des sentiments de performance. On veut bien faire à l'école, on veut bien faire avec les copains, on veut bien faire pour le sommeil. Alors que le sommeil, il va venir naturellement si on est... Si on prend du recul, c'est quelque chose de naturel, on dort tous toutes les nuits, ça va arriver à un moment donné. Si on met trop de contraintes, trop de pression dessus, on risque de... Bah, ça risque de faire l'effet inverse et de se ruminer. Mes stats vont être mauvaises le lendemain. Donc plutôt pas trop pour. Par contre, des applis où on note simplement si j'ai bien dormi, de manière subjective, pourquoi pas. En tout cas, si on ne dort pas bien, remplir un agenda de sommeil pendant une semaine ou deux, ça peut être une bonne solution. Mais traquer son sommeil avec des applis et se dire... Le problème, c'est se dire, l'appli a dit que je n'ai pas bien dormi, du coup, je vais annuler des réunions, du coup, je ne vais pas étudier parce que l'appli a dit que je n'ai pas bien dormi. Puis ça, c'est catastrophique. Parce qu'en fait... Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir une mauvaise nuit et du coup, on récupère le lendemain. Et en fait, on fonctionne très bien. On est fait pour avoir des bonnes et des moins bonnes nuits. Et donc, croire juste l'application, c'est pas idéal.
C'est vrai qu'on retrouve ici une tendance un peu générale de la société. C'est cette tendance de tout quantifier, de vouloir tout quantifier. Et en plus d'avoir ces résultats, tu parlais des applications, mais on a aussi maintenant de plus en plus de montres connectées qui font la même chose, qui te donnent ce score au réveil. Un peu comme si ce score, c'était une mesure scientifique absolument éprouvée et certaine. Hein, tu as un score de 3 sur 10 pour ta nuit. Ouh là là.
Oui, alors... Pourquoi pas, si on dort bien et qu'on prend du recul par rapport à ça, mais je pense que c'est compliqué de prendre du recul. Et puis alors, on peut avoir une mauvaise nuit de sommeil, mais si on a l'adrénaline parce qu'on a quelque chose d'excitant, ben on va tenir sans problème. Et puis la journée ne va pas être catastrophique. On peut vraiment, alors de nouveau, ce n'est pas l'idéal, mais alors si ça peut aider, hein, par exemple un jeune qui est en décalage de phase, qui ne veut pas aller se coucher, si c'est quelqu'un qui s'en fout du sommeil et que ça peut l'aider à se motiver, ok. Mais souvent, les gens qui mesurent ça sont des gens qui aiment bien contrôler beaucoup de choses et tout mesurer. Dans ce cas-là, je pense que vaut mieux plutôt lâcher prise et venir le sommeil naturellement.
Est-ce que on a fait le tour de plein de choses? Je ne sais pas si toi, il y a des choses que tu souhaites encore aborder, rajouter. Tu as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel avant de terminer.
Je pense qu'on a parlé du rôle du sommeil dans différentes choses. Je pense que le message principal, c'est plus on va parler du sommeil, c'est un peu comme l'alimentation, on fait souvent le parallèle. Plus on va parler d'une bonne alimentation, plus les jeunes et les adultes et les profs et les élèves vont faire attention à leur alimentation et du coup seront en bonne santé. Le sommeil, c'est un petit peu pareil. Plus on sait que c'est important, on donne des bons conseils, plus on en parle, se dire, discuter tous ensemble en classe que la nuit, en fait, tout le monde dort et que si on se mettait tous d'accord, qu'on n'envoie pas des notifications... ce sera bénéfique pour tout le monde, parce que tout le monde sera plus vigilant, régulera mieux ses émotions, etc. Donc je pense que c'est bien de continuer d'en parler, de savoir que le sommeil c'est important, qu'on peut agir dessus par des mesures simples, de simplement y faire attention et prendre soin de son sommeil. Déjà, c'est déjà un grand pas, ça serait super.
C'est déjà beaucoup, je ne sais pas si... Ouais.
Oui, juste si on souhaite avec une classe faire des ateliers du sommeil, ça se passe comment? C'est vous qui venez? Comment?
Alors pour le moment, donc on fait nos ateliers dans un cadre d'un projet de recherche. Maintenant, on peut aussi venir faire des conférences. Il y a différents formats. On peut soit venir faire dans le cadre de nos ateliers de recherche. On arrive tout doucement à la fin du recrutement, donc on fait encore ça jusqu'en mars l'année prochaine. Sinon, on peut venir dans les écoles discuter du sommeil, soit avec les jeunes, soit avec les parents, soit avec les profs, avec ceux qui ont... En général, ce sont ceux qui dorment déjà bien qui viennent, ceux qui sont déjà convaincus. Mais je pense que ça vaut toujours la peine d'en reparler.
Et ceci en contactant toi directement, Virginie Sterpenich.
unige.ch, oui.
Ok, très bien. Parfait. D'autres réactions de fin de notre question? En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions.
Merci à vous.
Merci pour... c'était super intéressant. Et puis, on se réjouit de voir la suite de tes études.
On se réjouit de continuer à travailler avec le DIP qui nous soutient toujours très fort. C'est très agréable, donc merci beaucoup. Et on se réjouit de continuer à venir voir les ados et les aider à mieux dormir.
Et c'est vrai que le code du matériel sera disponible. Ce serait, ouais, on sera très content de le voir et puis éventuellement de l'utiliser en classe. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.